Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Préhistorien, ancien directeur de recherche au CNRS, vous avez été professeur de Lomelay, directeur du Muséum d'Histoire Naturelle. Vous êtes membre correspondant de l'Académie des Sciences et de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Vous avez dirigé de très nombreux chantiers de fouilles archéologiques partout dans le monde et en France, dans des endroits comme Totavel, Terra Amata ou bien d'autres encore. Professeur de Lomelay, bonjour.
Bonjour monsieur.
Merci de venir aujourd'hui au studio de Canal Académie pour nous parler de la chasse à l'époque de la préhistoire. Alors professeur, l'homme marche depuis 5 millions et demi d'années environ, il fabrique des outils depuis 3 millions d'années, avec cette fameuse main libérée qui le distingue de ses cousins les grands singes. Quelle place occupe la chasse dans le quotidien de cet ancêtre vieux de plusieurs millions d'années et dans cet espace géographique qui correspond aujourd'hui au sud de la France actuelle ?
Bien oui, pour reconstituer cette histoire de l'homme et les relations entre l'homme et l'animal, on peut dire que dans l'histoire des hominidés, parce que nous allons appeler hominidés des primates qui ont acquis la station érigée bipède. Et nous savons que depuis 7 millions d'années, aujourd'hui, nous savons depuis peu d'ailleurs, depuis quelques années, que depuis 7 millions d'années, des primates ont acquis la station érigée bipède. C'est par exemple le Sahelanthropus tchadensis, qu'on appelle plus familièrement Toumaï, qui a été découvert dans le nord du Tchad. Or, c'est un primate de petite taille, qui avait une capacité crânienne très faible, de l'ordre de 350 cm cubes, c'est-à-dire comparable à celle des grands singes. C'était déjà un primate bipède, mais c'était peut-être pas un homme, mais nous les appelons des hominidés. Alors, en effet, marcher debout, c'est peut-être une condition nécessaire pour être un homme, pas une condition suffisante. Et lui ont succédé d'autres formes plus évoluées, qu'on appelle Ardipithecus, et puis les australopithèques, les fameux australopithèques dont il y a beaucoup de phylums, dont là j'ai compris entre 4 millions d'années et 1 million et demi d'années. Ils sont très nombreux de phylums, c'est une évolution de primates bipèdes. Mais tous ces groupes ne consommaient pas encore de viande, ils n'étaient pas chasseurs, ils n'étaient pas charognards, et ils consommaient des végétaux, des racines, des fruits, et aussi beaucoup de graminées, ce qui explique l'extrême usure de leurs dents. Mais c'était déjà des hominidés, mais pas encore des hommes. Ils marchaient debout, ils étaient végétariens, ils ne savaient pas fabriquer d'outils, et ils n'avaient certainement pas inventé le langage articulé, car si l'on fait une étude de leur crâne, les conditions anatomiques pour l'existence du langage articulé ne sont pas réunies. Mais, et ceci est très important, à partir de 2 millions et demi d'années, apparaît, émerge une autre forme que les paléoanthropologues appellent Homo habilis, qui a un cerveau plus gros, plus volumineux, qui dépasse maintenant 550 cm cubes et qui même peut dépasser 600 cm cubes. Ces Homo habilis, si on étudie leur crâne, on peut mettre en évidence que toutes les caractéristiques anatomiques pour le langage articulé sont réunies. Et puis, associés aux ossements de ces premiers hominidés, qui datent de ces hominidés qui ont un cerveau plus grand que 600 cm cubes qu'on appelle Homo habilis, on trouve des outils taillés, des outils manufacturés, mais des outils qui correspondent à une stratégie de débitage complexe. Et associés sur les campements de ces hominidés qui fabriquent des outils, on trouve aussi beaucoup d'ossements d'animaux. D'animaux des antilopes en particulier, mais aussi on peut trouver des ossements de zèbres, rhinocéros, d'éléphants. Et manifestement, certains os sont cassés, présentent des fractures faites sur os frais. Elles se représentent bien, ce n'est pas l'écrasement des terres qui a cassé les os, mais c'est des os qui ont été cassés alors que les mâles étaient morts très récemment, car ce sont des cassures lisses, spiroïdales, qui montrent que c'est une cassure qui a été faite alors que l'os était encore frais. Et d'autre part, on peut parfois trouver sur ces os des stries, de très fines stries de découpage. Et manifestement, ces hommes ont consommé de la viande. Ces premiers fabricants d'outils, alors ces hommes ont consommé de la viande. Et on peut dire qu'il y a 2 millions et demi d'années, avec les Homo habilis, qui ont un cerveau maintenant qui atteint ou qui dépasse 600 cm cubes, avec l'acquisition du langage articulé, avec l'invention de l'outil, a débuté la fabuleuse aventure culturelle de l'homme. 2 500 000 ans. Les australopithèques étaient des hominidés, mais pas encore des hommes. Et on peut dire que les Homo habilis sont non seulement des hominidés, mais sont devenus des hommes car ils fabriquent des outils. Et ils fabriquent des outils parce qu'ils veulent manger de la viande, ou c'est parce qu'ils sont capables de fabriquer des outils qui mangent de la viande, ou c'est parce qu'ils veulent manger de la viande qui fabriquent des outils. On peut dire que l'outil est étroitement lié à la consommation de la viande. Et d'autre part, avec les hominidés, contrairement avec les australopithèques, on peut mettre en évidence des sols d'occupation qui sont jonchés d'outils taillés, qui sont jonchés d'ossements. Alors, on peut se dire, comment se sont-ils procurés ces ossements? Alors, si l'on regarde les déchets alimentaires, on peut dire, on constate qu'il y a, les âges des animaux sont très variés. Il y a des individus jeunes, des individus adultes jeunes, des adultes âgés, des individus vieux. Et c'est pas les produits d'une consommation de chasse. Dans des sites plus récents, comme la Conorago-Totavel, que vous avez évoqué tout à l'heure, et on trouve une très grande abondance d'adultes jeunes, car dans un troupeau, il y a surtout des adultes jeunes. Et on peut penser que tous ces ossements proviennent d'activités de charognage. Ces premiers hommes fabricants d'outils n'étaient pas encore des chasseurs, mais ils consommaient de la viande qui se procurait par charognage. En effet, à cette époque-là, depuis 2,5 millions d'années, le climat de l'Afrique de l'Est s'est asséché. Les prairies, ou les steppes, les savanes, sont devenues de plus en plus importantes. Des savanes qui occupent le paysage, les troupeaux d'herbivores, en particulier les troupeaux d'antilopes ou de zèbres, peuvent devenir de plus en plus abondants. Si bien qu'il y avait des grands carnivores comme la panthère géante, qu'on appelle Meganthereon meganthereon, ou le tigre à dents de sabre, qu'on appelle Homotheum crenatidas, avaient à leur disposition beaucoup de troupeaux d'antilopes dont ils pouvaient se rassasier. Et en général, ils ne finissaient pas complètement les dépouilles de leurs victimes. Ils commençaient par prendre les viscères, le foie, le poumon, les boyaux, et puis le reste, ils le laissaient. Et d'ailleurs, un tigre à dents de sabre ne peut pas racler la viande entre les côtes, etc. Et ils abandonnaient ces carcasses de grands herbivores au bord d'une rivière, au bord d'un fleuve, au bord d'un lac. Et alors, il y avait deux grands prédateurs, ou petits prédateurs, deux prédateurs qui étaient en compétition pour avoir accès à la carcasse. C'était d'une part un petit bonhomme, l'Homo habilis, qui avait 1,20 m de haut, mais qui fabriquait des outils, et la hyène géante, Pachycrocuta brevirostris. Et en effet, on trouve parfois autour d'un hippopotame, autour d'un éléphant méridional, un éléphant archaïque, on trouve des petits éclats de taille, des petits outils, ou des coprolites des hyènes. Et on voit très bien que l'Homo habilis est en compétition avec la hyène géante pour avoir accès à la carcasse. Et pendant très longtemps, pendant plus d'un million d'années, les hommes, ces premiers hommes, fabricants d'outils, qui avaient un outillage très simple, très archaïque, ont consommé de la viande, mais ils n'étaient pas chasseurs, ils étaient charognards. Alors, le charognage est développé majoritaire et exclusif en Afrique de l'Est entre 2 millions et 2 millions d'années, mais ces premiers fabricants d'outils, charognards, arrivent en Europe, en Géorgie, vers 1 800 000 ans, et on les retrouve sur les rivages méridionaux de la Méditerranée, comme par exemple dans la grotte du Vallonnet à Rocobune-Camartin, ou sur le site de la Chima de l'éléphante à Tapurca, près de Burgos, ou dans les sites de Barrancoléon et de Fuentealbumbre en Andalousie, pas très loin de Grenade, à des époques plus récentes. Manissi, c'est 1 800 000 ans. Chima de l'éléphante, c'est 1 300 000 ans. Barrancoléon et Fuentealbumbre 3 en Andalousie, c'est 1 200 000. Ces hommes restent charognards. Et même, ils peuvent dire qu'en Europe, ils restent charognards jusque vers 600 000 ans. Dans le site de la Pineta et Isernia, en province de Molise, dans le sud, dans l'Italie centrale, jusqu'à, on connaît un site qui date de 620 000 ans à peu près, où il y a encore des campements. On peut mettre en évidence des activités de charognage.
Donc 600 000 ans, c'est l'époque où se situe le basculement, où l'outillage permet de devenir chasseur.
Le basculement se fait à 1,5 million d'années en Afrique, mais beaucoup plus tard en Europe. Le basculement se fait, on peut dire, vers 1,5 million, 1,6 million en Afrique de l'Est. Il se fait vers 950 000 ans en Chine, et il peut être daté de 600 000 ans en Europe méridionale en tout cas. Alors, en Afrique de l'Est, ça commence toujours en Afrique de l'Est, vers 1 600 000 ans, les hommes deviennent chasseurs. Et quand on est chasseur, il faut un grand couteau pour ouvrir le poitrail d'un animal. C'est ainsi qu'ils taillent des éclats beaucoup plus grands. Et ils inventent un outil extraordinaire qui est le biface, qui est l'outil caractéristique de ce qu'on appelle les civilisations acheuliennes, c'est-à-dire l'outil caractéristique des Homo erectus, porteurs des civilisations acheuliennes. Le biface est un outil pointu, en général pointu, qui a une base arrondie, à l'extrémité distale pointue, et qui présente une symétrie bilatérale et bifaciale. Il y a donc deux tranchants latéraux qui devaient servir à découper le poitrail des animaux. Un pointu peut percer, et les deux bords latéraux permettent de couper. C'est ainsi que les études des traces d'utilisation faites sur le bord de ces éclats montrent qu'ils ont servi à découper de la viande, à découper des peaux. Et ces bifaces, cette nouvelle technologie, est liée à la chasse. Alors ces hommes sont capables très tôt, par exemple à la Conorago à Totavel, dans un site dont on a des couches dont l'âge est compris entre 600 000 et 400 000 ans, on peut mettre en évidence que c'était des chasseurs extraordinaires. Ils étaient capables d'abattre des animaux aussi agiles que le mouflon, que le chamois, que le tar, qui est une chèvre à long poil qui vit aujourd'hui dans l'Himalaya, ou à partir de 100 000 ans, quand ils s'installent sur le littoral méditerranéen, les boucotins. Ils pouvaient abattre des animaux aussi puissants que le cheval, le bison, peut-être le rhinocéros aussi. Aussi dangereux même que le loup, le lion ou la panthère.
Est-ce qu'on sait si ces chasses possèdent leur propre stratégie, déjà ?
Certainement, parce qu'abattre un lion ou un bison ou un cheval, c'est pas toujours facile. Et ils avaient certainement mis au point des techniques de chasse élaborées, peut-être avec des filets, peut-être avec des lassos, où on connaît quand même un site dans le nord de l'Allemagne, qui date d'environ 300 000 ans, de chasseurs de chevaux. Le site de Schöningen, c'est dans le nord de l'Allemagne, qui est un site extraordinaire, parce que les dépôts sont dans une tourbière. Et dans une tourbière, le bois peut se conserver. Et nos collègues allemands qui ont fouillé ce site ont trouvé dans ces tourbes des épieux en bois très allongés, dont certaines de 2,20 mètres de long, dont la pointe même a été durcie au feu, associée à beaucoup d'ossements de chevaux. Et c'était des chasses à l'épieu, au lancer, au javelot, à lancer pour abattre les chevaux qui devaient passer vers un couloir où passaient les chevaux. Et on voit très bien, on a les ossements de chevaux qui sont débités, cassés, et ces épieux. C'était forcément des chasses communes, des chasses organisées pour abattre ces animaux aussi agiles que les animaux de rocher, aussi puissants que le cheval et le bison. Et c'est vrai qu'ils chassaient beaucoup, mais certainement ils ont continué à faire du charognage. Et on connaît certains sites en Espagne, par exemple, comme le site d'Ambona, de Torralba, ou même le site d'Arruda, ou en Italie, comme le site de Castel di Guido, ou comme le site de Torin Pietra, ou surtout comme le site de la Polledera de Secanibio, qui est dans le Latium, des sites où il y a des marécages et beaucoup d'ossements d'éléphants avec des défenses, des ossements. Et on peut même, à la Polledera de Secanibio, on peut mettre en évidence des parties d'éléphants qui sont encore debout, qui ont dû s'embourber dans le marécage, qui se sont envasées. Et autour de ces squelettes d'éléphants, encore en connexion anatomique, qui ont été piégés dans les marécages, on trouve des silex, des éclats de taille. Et manifestement, les hommes sont venus faire du charognage. Alors, ils pouvaient chasser, mais ils pouvaient continuer.
Les deux ont subsisté pendant un moment.
Alors, un peu plus tard, mais très tôt déjà, vers 1 million, vers 5. À la Conorago, à Totavel, aux environs de 450 000, 500 000 ans, 550 000 ans, on peut mettre en évidence des chasses spécialisées. On a, dans la Conorago, à Totavel, dans le rapissage d'un âge compris entre 700 000 et 100 000 ans, mais il est bien connu actuellement, d'après l'état de nos fouilles, entre 600 000 ans, on peut dire, et 400 000 ans, on peut mettre en évidence plusieurs types d'occupations. Il y a des campements de longue durée. Mais ces campements de durée, ce n'est pas très très long, c'est 2-3 ans. Des campements qui ont duré 2-3 ans. Alors les hommes allaient chasser dans toutes les niches écologiques, dans tous les biotopes. Alors, on trouve des animaux de rocher, des animaux de prairie, on trouve des chevaux, des bouquetins, des cerfs, du renne. C'est des campements de longue durée, 2-3 ans. Mais le plus souvent, c'était des campements saisonniers temporaires de 2-3 mois.
4 mois.
Un campement d'hiver, un campement d'été, un campement d'automne. Et ces campements temporaires correspondent essentiellement à des chasses spécialisées. Par exemple, on a un site qui date d'environ 440 000 ans, où les hommes s'étaient spécialisés dans la chasse aux mouflons. Et c'est pendant une période assez froide. On a un campement, par exemple, qui date d'environ 500 000 ans, qui est un campement saisonnier, qui a dû durer du mois de mars au mois de juin, où les hommes s'étaient spécialisés dans la chasse aux mouflons, 440 000 ans. Mais on en a un autre qui date de 500 000 ans, qui est un campement d'hiver, du mois d'octobre au mois de décembre, où les hommes ont chassé dans la forêt le cerf et le daim. Parfois, ce sont de simples haltes de chasse. par exemple, une dalle de chasse qui date de 550 000 ans, nous appelons le soleil ou l'unité archéostatigraphique, elle, où les hommes ont vécu pendant peut-être 15 jours, un mois, et ils ont chassé uniquement, ou à 95%, le renne. Or, dans le paysage, il n'y avait pas que du renne, mais c'est le moment s'y prêter. Au pied de la grotte, il y a un guet, et ils devaient avoir repéré l'endroit où les troupeaux de rennes franchissaient le guet. Et ils ont ramené dans leur campement une quarantaine de squelettes de rennes qu'ils ont découpés sur place pour peut-être l'emporter plus loin. C'était comme ce souvenir. Et puis parfois, c'était de simples bivouacs. Et on connaît des niveaux, par exemple, où il y a que deux ou trois ossements de bœuf musqué et quelques éclats. On sent que l'homme n'est pas vraiment resté, n'a pas habité sur place, mais il a découpé un animal qu'il avait abattu au cours d'une randonnée. Donc vous voyez, c'est plusieurs types de chasses, des chasses spécialisées, des chasses qui se font dans les différents biotopes, dans les différents champs écologiques, en fonction du mode de vie, du mode d'habitat, de l'organisation de l'habitat. Alors au cours du temps, les hommes préhistoriques vont de plus en plus s'organiser pour effectuer des chasses spécialisées. Et à partir du Moustérien, on connaît beaucoup de sites où les hommes pratiquaient une chasse sur une espèce.
Alors, on passe d'hommes charognards à des chasseurs. Il y a une dimension très importante qui surgit aussi, c'est la découverte et la maîtrise du feu. C'est-à-dire que les parasitoses qui devaient infecter ces chasseurs lorsqu'ils se nourrissaient d'une viande non cuite,
oui, alors
cette parasitose
longtemps,
sans doute disparaît, en tout cas a des effets moindres, la durée de vie peut-être s'allonge, et cette maîtrise du feu, elle a des conséquences importantes.
Oui, c'est vrai. Pendant longtemps, l'homme ne connaissait pas le feu, ne l'a pas utilisé. Il avait vu des volcans, des incendies naturels de forêt, sûrement. Mais il ne savait pas utiliser le feu. Et on peut dire que le feu est une histoire, est une invention très récente dans l'histoire de l'humanité. Alors je vais vous dire que le feu date de 400 000 ans. Les plus anciens foyers aménagés, organisés, actuellement connus dans le monde, datent de 400 000 ans. 400 000 ans, vous voyez, c'est très récent. Vous n'allez pas me croire. Mais si je vous dis que l'homme est apparu il y a 2 millions et demi d'années, l'homme fabricant d'outils est apparu il y a 2 millions d'années, et que par convention, on va dire que c'est le 1er janvier à 0 heure, si on le compare à une année, 400 000 ans, c'est le 15 novembre. Vous voyez, c'est juste avant l'hiver, il était temps de domestiquer le feu. Alors, le feu a été un formidable moteur d'hominisation, parce que le feu est clair. Il a permis à l'homme de pénétrer dans le fond des grottes, dans les fonds des cavernes. Sans le feu, il ne pouvait pas accéder au fond des cavernes, dans les galeries souterraines. Le feu, il est clair, oui, mais le feu réchauffe. On peut dire qu'il a allongé l'été aux dépens de l'hiver. Mais le feu a permis à l'homme de pénétrer pour la première fois dans les zones tempérées froides de la planète. Et il a donné à l'homme, à l'humanité, de nouveaux territoires de chasse. Le feu permet de faire cuire la nourriture. Et la viande cuite est certainement plus succulente, en tout cas pour beaucoup, que la viande crue. Mais en faisant cuire la viande, comme vous le disiez tout à l'heure, il a fait reculer les parasitoses. Et donc allonger l'espérance de vie. Avant la domestication du feu, l'espérance de vie, c'était 25 ans. À partir de la domestication du feu, l'espérance de vie est un peu plus longue. Le feu a permis d'améliorer la fabrication des outils. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du site de Schöningen, où on a des pointes, des épieux, dont la pointe a été durcie au feu. Mais l'intérêt majeur du feu, je crois, est un facteur de convivialité. Autour du feu, on se raconte des histoires. Vous avez sûrement, vous êtes du Berry, il y a beaucoup de chasses en Berry. Les chasseurs terminent des vies autour du feu. Et autour du feu, on se raconte des histoires. Et les chasseurs se racontent des histoires extraordinaires de chasse. Et au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, l'éléphant, le rhinocéros devenaient de plus en plus gros, de plus en plus monstrueux. Et ainsi, à Termata, nous avons mis au jour des campements, des sols d'occupation de chasseurs d'éléphants et de cerfs qui datent de 400 000 ans. Ce sont les plus anciens foyers aménagés actuellement connu, et autour de ce foyer, les hommes devaient se raconter l'histoire de chasse, et le rhinocéros qui avait habitué devenait de plus en plus gros. C'est ainsi que sont nées un peu les traditions culturelles régionales, et que sont nés les héros, parce qu'au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, le chasseur qui avait abattu le ros monstrueux devenait de plus en plus un héros, et sont nés les ancêtres d'un groupe, et les hommes, dans les différentes cultures, se sont liés en fonction de cette tradition. Et c'est ainsi que les préhistoriens peuvent mettre en évidence, à partir de 400 000 ans, des traditions culturelles régionales, des identités culturelles. C'est une nouvelle étape dans l'évolution des cultures humaines.
Alors, il y a une autre dimension que vous évoquez parfois, c'est je la date, mais vous me corrigerez, vers 30 000 ans, lorsque l'homme découvre ce que vous appelez le vertige métaphysique, c'est-à-dire à travers l'art, la représentation de la chasse.
Oui, je pense que l'angoisse métaphysique ou
la dimension esthétique, peut-être dans un premier temps,
s'est effectuée un peu plus tôt. La première trace des balbutiements de la pensée symbolique, c'est le site de la Chima de Luesos, dans la Sierra de Atapuerca, près de Burgos. Là, on a un aven funéraire dans lequel les hommes ont précipité une vingtaine de cadavres. Tous les os sont conservés, les os sont entiers, ils ont été jetés au fond de cet aven. Il n'y a pas de faune, il n'y a pas d'outils, sauf une pièce magnifique, un magnifique biface en quartzite rouge, qui a été superbement taillé, très soigné, qui est parfaitement symétrique, élégant, on pourrait dire, de belles couleurs. Et ce n'est pas parce qu'il est bien taillé, qu'il est bien retouché, qu'il est parfaitement symétrique, qu'il est de belles couleurs, qu'il est plus fonctionnel. Et cet outil n'a jamais servi. Les arêtes sont tranchantes et très fraîches. Et manifestement, c'est une offrande funéraire. On peut dire que vers 300 000 ans, 350 000 ans, nous avons là les premiers balbutiements de la pensée symbolique. Puis une nouvelle étape, elle se situe vers 400 000 ans. 400 000 ans, pour la première fois, les hommes enterrent leurs morts. C'est-à-dire qu'ils vont creuser une fosse, ils déposent le défunt dans la fosse, ils mettent parfois dans la fosse des offrandes pour le voyage dans la future. Par exemple, dans la grotte de la Chapelle au Saint, en Corrèze, un thorax de renne, une patte de bison. C'est les offrandes pour le voyage dans l'au-delà. Mais ceci montre que l'homme, pour la première fois, s'interroge sur sa signification, sur sa place dans l'histoire de la vie et dans l'histoire de l'univers. Il ne veut pas mourir, il veut aller au-delà de mort, il veut aller continuer sa route dans l'au-delà. On peut dire que c'est la naissance de l'angoisse métaphysique, l'émergence de la pensée religieuse. Mais une nouvelle étape se situe vers 35 000 ans, avec les hommes modernes, ces hommes comme vous, monsieur, qui avaient un front vertical au-dessus des orbites, qui témoignent du grand développement des lobes frontaux du cerveau et l'explosion de la pensée associative, d'où l'explosion de la pensée symbolique. Et les hommes, à ce moment-là, vers 35 000 ans, vont inventer l'art pariétal, l'art mobilier, la parure, et aussi même la musique, puisqu'on a trouvé des flûtes en os vautour, par exemple, qui sont percées de trous, parce que le vautour est très creux, qui ont servi de flûte. Et on peut dire que c'est une nouvelle dimension dans l'homme, et c'est l'explosion de la pensée symbolique. Et alors, c'est à ce moment-là que les hommes vont représenter des animaux, et cette représentation des animaux est quelque chose sûrement de très symbolique, lié à des mythes. La pensée mythique se développe, par exemple dans la grotte de Lascaux, dans le puits de Lascaux, on a une scène magnifique. On a un bison qui retourne la tête, qui est éventré par une très grande sagaie et qui perd ses entrailles. Et face à lui, il y a un personnage couché, culbuté, avec une tête d'oiseau. À côté de lui, il y a son propulseur accroché, son propulseur avec, surmonté par une sculpture d'oiseau. Et il était typhalique, c'est-à-dire en érection. Et on peut dire que c'est la mort du bison, l'homme est culbuté, mais en érection, c'est l'année de la vie. Et certainement, cette scène que nous avons du mal à interpréter strictement, correspond à un récit mythique. D'ailleurs, cette scène a été reproduite plusieurs fois en Périgord, en particulier dans la grotte de Villars. Pas d'une façon aussi majestueuse que dans le Puy de Lascaux, mais a été reproduite plusieurs fois. Et elle correspond à cette demande. Et l'animal a un rôle très important. L'homme est en relation avec l'animal, mais il ne représente pas forcément les animaux qu'il veut chasser ou qu'il chasse le plus. C'est toute une dimension symbolique. Par exemple, dans le grotte de Lascaux, on n'a, je crois, pas de renne gravée ou peint, mais peut-être un seul, alors que les fouilles qui ont été faites dans le grotte de Lascaux montrent que c'est presque les ossements, et qui sont des déchets culinaires, des déchets alimentaires, sont pratiquement que du renne. Les ossements d'animaux, ça correspond qu'à du renne. Et ils n'ont pas représenté le renne, et les animaux qui représentent sur les parois de la caverne ont un sens symbolique qui nous échappe. Et on peut dire que ces grandes grottes peintes de la préhistoire, comme Lascaux, comme Nio, comme Altamira, comme les grottes trouvées plus récemment, comme la grotte Cosquer, près de Marseille, ou la grotte Chauvet à l'entrée des gorges de l'Ardèche, sont des sanctuaires souterrains, des cathédrales des hommes paléolithiques.
Vous êtes en train de nous donner quelques centaines de siècles avant Pascal, la dimension pascalienne de la chasse, voilà. Finalement.
Oui, c'était très important, la relation entre l'homme et l'animal, la chasse, et les hommes. Alors on peut dire que ces hommes avaient dû guetter les animaux, ils avaient dû les observer, ils les connaissaient parfaitement. Et les peintures qui sont sur les parois des cavernes sont parfaites. Elles sont sans repartir, il n'y a pas d'essai. Ils avaient la vision de l'animal qu'ils avaient certainement observé pendant des heures dans le guet.
Professeur Delhomelay, je vous remercie d'être venu nous parler de la chasse à l'époque de la préhistoire. Je rappelle que vous venez de publier aux éditions CNRS un ouvrage intitulé « L'univers, la vie, l'homme » et que vous êtes sur le point d'en publier un second. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Un ouvrage à paraître chez le même éditeur aux éditions du CNRS, monographie sur le site de Terra Amata, qui paraîtra, je crois, très prochainement.
Oui, « L'univers, la vie, l'homme » est un ouvrage qui est édité par le CNRS, auquel ont participé 32 chercheurs et qui a pour but de présenter la place de l'homme dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de la vie, sa signification, et essayer de comprendre l'émergence de la conscience. C'est un ouvrage qui a réuni des physiciens, des astronomes, des astrophysiciens, des biologistes, des préhistoriens, des archéologues, mais aussi des philosophes et des théologiens.
Merci beaucoup, professeur Delhomelay.